Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, les contes africains sont à l'honneur, Daniel.
Oui, le conte africain reste le berceau de la connaissance. C'est en somme la conscience et l'inconscience d'un peuple.
Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julien. Bienvenue sur les ondes de Django.
Merci.
Vous êtes un ancien bénévole de l'espace Mosaïque, un lieu de rencontre, vous le savez, développé par l'association Appartenance, c'est pour les personnes migrantes. Alors, avant de parler de ces contes africains, ce qui va nous intéresser ce soir, une question générale, comment est-ce que vous avez découvert l'espace Mosaïque et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
En tant que migrant moi-même, je me suis intéressé à la cause des migrants et... Sur Internet, j'ai découvert l'espace Mosaïque. Je me suis rendu, j'ai proposé mes services et c'est comme ça que je suis devenu bénévole, formateur d'adultes en français langue étrangère.
Et dans quelle mesure est-ce que vous êtes impliqué dans l'organisation des ateliers de français proposés par l'espace Mosaïque ?
Moi-même, je donne des cours. Je donne des cours deux, trois fois par semaine.
Des cours de français,
donc. Des cours de français, oui. Et puis voilà.
Mais vous occupez également de la gestion, de la coordination.
Oui, ces derniers moments, je m'occupe de l'organisation, de la coordination des activités, des différents bénévoles. Enfin, je gère tout ce qui est en rapport avec les cours de français à l'espace Mosaïque.
Et passionné par les contes, pensez-vous que justement le conte qui renvoie en fait à la tradition orale et à une certaine manière de penser, pour apprendre le français finalement reste un bon outil, un bon vecteur ?
Oui, parce que le conte véhicule le conte est d'abord ludique et du point de vue de cet aspect, il y a beaucoup de leçons, on découvre beaucoup de paysages, beaucoup de symboles qui peuvent parler aux gens et on peut utiliser ces différentes images pour véhiculer des leçons ou des messages, des informations qui...
Donc ce sont des métaphores qui permettent de donner du sens.
Oui, beaucoup.
Et de s'approprier peut-être certains mots.
Oui.
Et quelle est votre expérience des contes africains ?
Chez moi, dans mon pays, ça se passe depuis le bas âge, depuis l'enfance. On nous raconte des contes, on nous éduque avec les contes africains, de sa part du grand-père au père, du père au fils, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai baigné dans cette atmosphère. Les nuits, on nous rassemblait autour devant la case, et puis on nous racontait des contes avec le feu.
Qui vous racontait des contes quand vous étiez enfant ?
Soit c'est le grand-père, souvent c'est la grand-mère, ça dépend.
Est-ce que vous pourriez mettre des mots sur cette atmosphère autour de la case et du feu ?
C'est du rêve pratiquement. C'est aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui s'est passé pour moi, c'est comme un rêve de vivre dans ce monde avec entouré de cousins, d'oncles, de grands-parents, et puis vous partagez des moments ensemble où on discute. Là, en ce moment-là, la parole est libre. Il y a pas d'aîné, il y a pas de grand frère ou il y a pas de grand père. On dit ce qu'on pense et ça, c'est seulement au niveau du conte que on peut voir ça en Afrique.
Et dans quelle mesure vos origines ivoiriennes ont-elles un lien avec votre passion des contes africains ?
Ah oui, comme je le disais, j'ai grandi dans ce climat et puis je me suis approprié les contes aujourd'hui, si je peux utiliser ce mot, et ça me plaît et je le dis même à mes enfants. La nuit ici en Suisse, ils sont couchés sur leur lit et puis
Vous leur racontez des contes avec une touche personnelle, semble-t-il.
Oui, j'essaie. Comme je ne suis pas un conteur professionnel, j'essaie.
Donc vous faites de l'improvisation sur les contes.
Oui. Merci.
Que traduisent les contes de manière générale ? Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, voire en Afrique du Sud, ou ailleurs dans le monde ?
Oui, mais le conte, c'est, comme vous avez dit en introduction, c'est la connaissance, c'est le monde imaginaire de tout un peuple, et puis ça renvoie à nos origines, à ce que peut-être des gens qui ont vécu essaient de nous transmettre, et nous qui n'étions pas là, et on se sert de ce message pour aussi informer d'autres personnes, et donc ça crée un lien finalement, un lien avec nous aujourd'hui et tous ceux qui sont nos ancêtres.
Donc c'est dans l'idée de garder ce lien avec les ancêtres.
Ouais.
Sachant que le conte a une dimension universelle, quelle place occupe finalement dans les contes, dans les pays africains, la faune et la flore ? Est-ce que c'est vraiment des éléments de référence ?
Beaucoup.
Vous pourriez nous donner quelques exemples ?
Oui, chez nous par exemple, il y a le... comment je peux appeler ça, l'arbre à palabre, par exemple, sous lequel on se réunit. Et c'est un arbre qui existe au beau milieu du village et ça fait peut-être 300, 400 ans que l'arbre est là. Et donc, c'est un arbre qui a vu passer des générations de personnes. Et voilà, donc ça témoigne bien de cette vitalité et puis de ce lien qu'il y a entre nous les vivants et ceux qui sont disparus.
Et quel est le rôle des animaux? Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans les contes africains.
Oui, certaines fois, pour ne pas nommer peut-être des personnes un peu trop influentes dans le village ou dans la région, on confie ce rôle à un animal. Donc voilà, ça passe mieux comme ça.
Mais au bout du compte,
tout le monde finit par savoir qu'on parle d'une...
Vous disiez à l'instant que vous lisez ces contes à vos enfants. Comment est-ce qu'ils le vivent avec la culture suisse-romande?
Comment ils le vivent? Ils sont très heureux quand je leur lis le conte.
Mais vous le racontez en Afrique, on le fait autour de l'arbre,
ça je le lis, je raconte ces contes quand ils sont au lit, ils sont couchés. Au lieu de leur chanter peut-être une berceuse, je lis un conte, c'est mieux pour moi.
Est-ce que ça prolonge quand même un petit peu cette atmosphère qui peut être faite en Afrique?
Bon, c'est pas la fête, hein. Ici, c'est pas la fête. Quand je leur lis le conte, avant que je ne finisse, ils s'endorment.
Ils sont déjà dormis.
Oui, ça les apaise, bien au contraire.
Faute d'avoir un feu, vous avez un micro. Ouais. On va vous demander de nous lire un conte d'Ogo, du pays d'Ogo.
Ouais, c'est un conte du pays d'Ogon.
Pardon. Ouais.
Ça vient du Mali. C'est pourquoi la cola est-elle le symbole du mariage? Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi très puissant qui avait une très belle fille. À sa naissance, il avait placé entre les trois branches d'un arbre, devant le palais royal, un canari en or et promis de donner sa fille en mariage à qui le ferait descendre. Comme la princesse, l'arbre grandissait. Quand la jeune beauté eut l'âge de se marier, l'arbre mesurait une cinquantaine de mètres et son tronc était épineux. Le roi renouvela sa promesse. 5 années durant, beaucoup de jeunes gens essayèrent de descendre le canari d'or, mais aucun n'y parvint. Le tronc d'arbre était devenu comme un fétiche. Chaque semaine, on lui offrait du sang. Très loin de ce royaume, vivait un homme lui aussi décidé à tenter sa chance. Tout le village se moqua de lui. Même les bien portants n'ont pas réussi. Comment toi, un malade, peux-tu prétendre y parvenir? Il partit un matin de très bonne heure. En chemin, il rencontra une vieille femme en train de cultiver son champ. Il la salua et l'aida toute la journée. Le soir venu, la vieille lui demanda d'où il venait et où il allait. Il lui raconta son histoire. La femme le soigna tout d'abord, puis le transforma en lépreux. Elle sortit ensuite une noix de cola et la divisa en deux. Elle lui en donna une moitié comme talisman ainsi qu'une pierre magique. Après cela, le jeune garçon s'en alla passer la nuit au village royal. Au petit matin, il invita tous les villageois à assister à l'ascension de l'arbre. Le roi donna lui-même le coup d'envoi. Le lépreux escalada le tronc en lui donnant des coups de pied et de main. S'assit sur une branche et se saisit du canari. Les hôtes du roi applaudirent et acclamèrent le lépreux. Il redescendit, le canari d'or dans sa main droite, donnant de nouveau des coups de pied et de main contre le tronc, rougi par le sang des malheureux candidats qui l'avaient précédé. Il alla déposer le trésor au pied du roi, qui lui donna sa fille en mariage, ainsi que la moitié de sa fortune. Le lendemain, l'homme partit avec la fille. Ses servantes, les présents offerts par le souverain... L'homme partit avec sa fille, ses servantes et les présents offerts par le souverain. En chemin, il s'arrêta chez la vieille femme qu'il avait rencontrée la veille pour la remercier. Avant d'entrer chez elle, il donna la moitié de sa cola à son épouse. Après avoir pénétré dans la maison de sa bienfaitrice, cette dernière le transforma en personne bien portante et lui remit l'autre moitié de la cola. Quand le jeune homme ressortit, sa femme refusa de partir avec lui car elle ne le reconnaissait pas. Alors le jeune homme sortit la moitié de la cola qui était dans sa poche et demanda l'autre à sa femme qui la lui rendit. Il rassembla les deux moitiés, reconstituant ainsi la cola originale. Sa femme accepta alors de partir avec lui. Depuis ce jour, la noix de cola symbolise le mariage.
Une dernière petite question, Julien. Est-ce que vous pensez qu'avec la modernité de notre monde actuel, les contes continueront à rester ancrés dans la culture africaine ?
Oui, mais peut-être d'une façon différente. On ne va plus les dire, mais peut-être qu'ils seront écrits. Voilà, ça serait le support, le livre.
Et vous continuerez à les lire.
Oui.
Merci beaucoup, Julien, de nous avoir fait partager cette passion. Longue vie aux contes, comme le dit bien Manfei Obin, musicien et conteur ivoirien. Et merci, Daniel, pour la préparation de ce sujet.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.